27 milliards de plus pour la Nouvelle-Calédonie, une aide complémentaire annoncée par le Premier ministre à la délégation du gouvernement actuellement à Paris. C'est aujourd'hui la journée mondiale du droit des enfants. Elle est relayée sur le territoire par des animations à Montravel et à Dembéa. Maîtriser les feux, un atelier de 3 jours a débuté aujourd'hui à Kouaoua. Au G20, la France semble avoir trouvé des alliés pour ne pas signer l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Pas sûr que ce soit suffisant pour calmer la colère des agriculteurs en métropole. Une tendance qui est peut-être en train de s'inverser. Les chiffres officiels de l'immigration montrent un recul des demandes d'asile, de naturalisation, mais une augmentation des expulsions. Et puis le sport avec du tennis, cette fois-ci c'est terminé. On ne reverra plus Rafael Nadal sur un court de tennis. L'Espagne a été sortie en quart de finale de la Coupe Davis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, notez que le Betis Show annule ses rotations jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le bateau est en effet victime d'une nouvelle avarie technique. Les pièces nécessaires à sa réparation, à la réparation du moteur et du groupe électrogène de secours sont en cours d'acheminement depuis l'Australie. Le Betis Show indique dans un communiqué que ses équipes restent disponibles par téléphone au 260-100, le 260-100, pour répondre aux interrogations des clients. Une aide complémentaire de 230 millions d'euros, c'est-à-dire 27 milliards et demi de francs pour la Nouvelle-Calédonie. C'est donc ce qu'a obtenu la délégation du gouvernement présente à Paris, qui a été reçue lundi par le Premier ministre Elisabeth Noire.
Et l'État répond ainsi favorablement à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont une délégation conduite par Louis Mapou était reçue, vous le disiez, lundi à Matignon par Michel Barnier. Christopher Gégès a détaillé cette aide financière au micro de notre correspondant Xavier Robert.
Oui, l'État a répondu présent aux attentes de la délégation puisque le Premier ministre déjà nous a reçus pendant 1h30 pour évoquer la situation de la Nouvelle-Calédonie. Il nous a annoncé une aide complémentaire de 230 millions d'euros qui porte à 1 milliard d'euros le soutien de l'État pour l'année 2025, donc 120 milliards CFP, ce qui nous permet d'avoir de la visibilité sur à la fois le financement des collectivités, le financement des entreprises, des différents dispositifs aussi d'aide aux salariés qu'on travaillera avec les représentants de l'État. Mais c'est une excellente nouvelle parce que 120 milliards pour l'année 2025, donc c'est un accompagnement significatif de la part de l'État. Ça sera sous forme de prêt garanti dans un premier temps, mais un prêt garanti qui devra être remboursé s'il l'est au bout de 5 ans. Et on s'inscrit surtout sur une convention pluriannuelle de 3 ans où ce montant d'un milliard d'euros pourra être revu en fonction des besoins et des engagements de la Nouvelle-Calédonie.
Cette aide financière de l'État à la Nouvelle-Calédonie va être inscrite au budget de l'État sous la forme d'un amendement qui va être déposé par le gouvernement central et discuté au Sénat sans doute dès la semaine prochaine. Mais Bercy et Matignon ont été clairs, ces aides sont conditionnées à des réformes.
Oui, au-delà de contrepartie, il faut que la Nouvelle-Calédonie se réforme. Donc on a présenté à la fois au Premier ministre, mais également à Emmanuel Moulin, les premiers travaux du plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction qui prévoit un certain nombre de réformes sur les frais de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, les frais sur les dépenses de santé de la Nouvelle-Calédonie. Donc on doit se réformer pour que l'État nous accompagne. Donc on a eu un échange très constructif à la fois avec le Premier ministre hier, mais aujourd'hui avec Emmanuel Moulin et la mission reconstruction.
La délégation conduite par le président du gouvernement poursuit ses entretiens jusqu'à samedi. Louis Mapou est accompagné de Christopher Gégès, mais aussi de Thierry Santa, Gilbert Thuyénon et Yannick Slamet. Demain, il rencontre le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, ainsi que le ministre du Budget et des Comptes Publics, Laurent Saint-Martin. Et jeudi, ils ont rendez-vous à Bercy avec Antoine Armand, le ministre de l'Économie et des Finances.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Regrettez-vous que lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, le président du Sénat ait parlé de souveraineté partagée? Si vous le regrettez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, après la remobilisation des équipes de Premier Resources, dont une partie a pu reprendre le travail, 65% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'usine du Sud va pouvoir être sauvegardée. Ils sont 35% à penser que ce ne sera pas le cas. La journée du droit des enfants est célébrée aujourd'hui, le 20 novembre, partout dans le monde. Et la province sud organise, elle, une journée de sensibilisation aux droits des enfants, Léo Fichou.
Et oui, du côté de la protection maternelle et infantile de Montravel, qui propose depuis 8h et jusqu'à 16h cet après-midi des ateliers de sensibilisation pour les parents. Des temps d'échange avec les puéricultrices pour bien comprendre que les enfants ont eux aussi de nombreux droits. Hélène Robert est puéricultrice à la PMI de Montravel.
qui ressort souvent. On entend tout le temps parler du droit à l'alimentation, du droit à un logement, du droit à une éducation. Mais du coup, à la PMI, on parle du droit à la santé, du droit à vivre en sécurité, du droit à dire ce qu'on pense aussi. Voilà, donc il y a plein de choses que les parents n'ont pas une notion que c'est un droit. Voilà, on en discute, on voit avec eux. On a fait des petits jeux justement pour aborder ces sujets-là un peu de façon sympa.
Et des activités ludiques pour les adultes et les enfants, un jeu de loi des droits des enfants, un atelier dessin, un arbre des droits sur lequel tout le monde peut afficher les différents droits et bien d'autres. Écoutez Hélène Robert.
Donc il y a des petits jeux de cartes où on a fait des affichages pour parler justement des différents droits en fonction de situations un peu habituelles justement à laquelle ils n'ont pas pensé.
Allez-y, piochez une carte.
Alors lis-nous la petite phrase.
Les enfants doivent jamais être impliqués dans les conflits.
Les enfants doivent jamais être impliqués dans les conflits. Le droit d'être protégé de la guerre. Parce que tu sais qu'il y a des enfants dans le monde qui vivent dans des pays en guerre. Et du coup, vu que c'est un droit international, donc un droit dans le monde entier, ça fait partie d'un droit. Le droit de ne pas vivre dans un pays en guerre, le droit d'être protégé contre la guerre.
Et la journée de sensibilisation aux droits des enfants à la PMI de Montravel, c'est jusqu'à 16h.
Et ce droit des enfants a également été célébré à la halle Michel Castex de Dumbéa dans une ambiance beaucoup plus festive, Léana Colombo.
Oui, 11 écoles de la commune, soit plus de 300 enfants, sont réunis depuis ce matin à la halle Michel Castex, située près du lycée Dukikewe. Château gonflable, escape game, atelier de sensibilisation aux droits de l'enfant et stands d'information sont présents pour cette journée particulière. Ambiance festive donc, mais toujours à but pédagogique, où l'on apprend la signification de cette journée, même si chacun semble avoir sa propre définition. Écoutez.
Nous, on est les CE2B de l'école Jacques Minguet. Les enfants, c'est un peu le centre du monde, quoi. C'est les adultes de demain. Et c'est aussi, je pense, très important que dès le plus jeune âge, ils puissent avoir connaissance de leurs droits.
Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Parce que c'est la fête.
C'est pour les droits de l'enfance.
L'enfant a le droit de vivre.
Dans la liberté.
Vous venez de quelle école?
Du Bois, c'est à Katiramouna.
On a le droit de faire ce qu'on veut.
Pas forcément ce qu'on veut, mais on peut faire des jeux de notre droit. Donc si on a envie d'aller au foot, on peut aller au foot, par exemple.
C'est pour marquer qu'on a le droit de faire des choses, le droit de vivre, le droit d'amour, le droit d'avoir des sentiments.
Alors nous, on vient de l'école Victorien Bardou à Cuccio.
Une journée que pour nous, les enfants.
Une journée pour être libre.
Pour se faire des nouveaux amis.
Et on s'amuse très bien ici.
Une journée d'ampleur voulue par la mairie de Dumbéa pour rassembler petits et grands, explique Sylvia Tuani, adjointe en charge des sports à la mairie de Dumbéa.
C'est vraiment un jour extraordinaire, qu'on peut dire, pour tous ces enfants que l'on voit autour de nous. Beaucoup d'ateliers, beaucoup de présence d'institutions extérieures, d'associations, de clubs. Nous remercions toute cette participation qui donne à Dumbéa, à présent, avec tout ce que nous avons pu vivre ces derniers temps, écoutez, la joie, du bonheur, le rire et surtout d'être tous rassemblés ici à la halle Michel Castex. Et je dirais, le bonheur au cœur, la joie, le rire, c'est ça la vie, c'est la réussite. La réussite, c'est aussi à Dumbéa.
Et si ce matin les animations étaient réservées aux scolaires, cet après-midi, la halle Michel Castex sera ouverte à tous, et ce jusqu'à 16h.
À 11h39, une première pause dans ce journal. Dans un instant, voici ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo.
Un numéro 28 94 20.
RRB, 11h, 13h. Infomag, Jean-François Baudin.
Valoriser la filière pêche, c'est l'objectif de l'événement Cap sur la pêche qui est organisé samedi prochain à Nouville par la Chambre d'agriculture. De 7h30 à 13h30, les visiteurs pourront profiter d'un marché de la mer, assister à des ateliers culinaires, mais aussi visiter les bateaux de Navimont. Une façon de mettre en avant les professionnels d'une filière en difficulté, explique Benoît Béliaef, élu à la CAPNC.
La filière se porte pas très bien. Ça a été un peu, bien sûr, renforcé par la crise, mais déjà, nous avions des difficultés. Elles sont surtout d'un ordre commercial. On a une diminution du prix de vente de nos poissons pour plusieurs causes. La première étant la baisse du pouvoir d'achat des gens. Donc, on voit, par exemple, au marché de Moselle, moins de gens. Il y a également de la vente illicite, donc qui est renforcée par l'état de crise qu'on connaît. Il faut bien que les gens vivent à la fin du mois. Donc l'idée, c'est justement de mieux nous identifier en tant que pêcheurs professionnels. Il y a des gros efforts de communication qui sont faits, et notamment soutenus par l'agence rurale, avec l'émergence d'une marque qui va s'appeler Pêcheurs Calédoniens, qui va permettre d'identifier les produits locaux dans les grandes surfaces, mais également en bord de route pour les pêcheurs professionnels qui vendent en bord de route, mais également dans les marchés municipaux et marchés de proximité.
Et l'exportation des produits de la mer est aussi en souffrance après le coup d'arrêt sur le marché japonais.
L'exportation du thon jaune est stoppée au Japon, dans la mesure où la ligne Nouméa-Tokyo s'est arrêtée. C'est un dommage collatéral, mais les collègues vont rebondir. Donc ils sont à la recherche de solutions qui peuvent être de nouveaux marchés pour le frais, mais également du transport de produits surgelés, que ce soit du thon blanc ou du thon jaune, donc à l'étranger.
Parce que l'exportation de thon calédonien au Japon, c'était un marché qui était totalement mature et qui fonctionnait très bien.
On était reconnu pour ça par les Japonais, qui est, comme vous le savez, un marché quand même très difficile, très exigeant. Donc c'était d'autant plus méritoire pour la filière hauturière.
Benoît Béliaef, élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, milite aussi pour la création d'unités de transformation pour soutenir la filière sur le territoire. Il était donc notre invité ce matin à 7h30 et vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet. À Kwawa, le début d'un atelier autour de la maîtrise du feu. C'est un projet porté par les acteurs du programme Kiwa Payback Plus en lien avec la province Nord, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la commune de Kwawa et la CPS, Nicolas.
Oui, l'objectif est de trouver des solutions concrètes pour lutter contre les feux de brousse, sécuriser la ressource en eau face au changement climatique, avec des actions adaptées à partager auprès des populations. Les explications de François Tron, le coordinateur du projet.
Dans les solutions concrètes, on a par exemple le WWF qui propose une formation et un équipement pour des gens dans les villages ou les tribus pour lancer les alertes de manière précoce. On a l'association Agir qui va aussi présenter les techniques d'agroforesterie qui permettent de réduire l'usage du feu dans les champs. On a également Conservation Internationale qui présente une solution fondée sur les connaissances traditionnelles, écologiques, locales sur des espèces d'arbres qui brûlent mal et qui ont tendance à bloquer le feu. C'est ce qu'on appelle les pare-feux végétalisés à base d'arbres pyro-retardants. On a également la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie qui va présenter comment est-ce que dans l'activité de chasse, on peut effectivement avoir un usage particulièrement modeste, voire pas d'usage du tout du feu. Et au niveau international, on a également plusieurs interventions sur l'utilisation du brûlage dirigé contrôlé préventif, c'est-à-dire utiliser le feu à la bonne période, aux bons endroits, pour éviter que plus tard, on ait des grands feux destructeurs.
Sur place, depuis ce matin, une cinquantaine de personnes issues de tout le territoire sont présentes. L'idée est de réadapter l'usage du feu au contexte des changements climatiques afin de protéger l'environnement sur le long terme. Alex Dailly est originaire de Canala et chargé de la mise en œuvre du plan climat-énergie à la province Nord.
Ça prend du sens dans le sens où on a ce qu'on voit actuellement, notamment les effets du changement climatique qui sont présents. Ce n'est plus quelque chose à confirmer ou à rechercher. Les gens, ils le ressentent sur le terrain également, donc à leur niveau. Avec ça, on a tous ces facteurs qu'on appelle facteurs aggravants. Voilà, notamment le feu. C'est important de, on va pas dire sensibiliser, parce que les gens, ils sont sensibilisés, mais peut-être accompagner nos populations à faire de nouvelles pratiques, à innover dans les pratiques culturelles ou dans les pratiques de chasse pour minimiser l'impact du feu et permettre la régénération des écosystèmes.
Des experts régionaux participent également à ces ateliers par visioconférence pour partager leurs expériences. Des ateliers qui continuent jusqu'à vendredi à Kwawa.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, les élus du Congrès se retrouvent en séance publique à 13h30 cet après-midi. Ils doivent examiner le projet de loi du pays relatif au domaine de l'eau. Et puis, toujours en bref, notez ce soir la conférence de Johannes Ziegler à l'auditorium du Centre administratif de la province sud. Cet expert en psychologie cognitive, directeur du laboratoire de psychologie cognitive et directeur de recherche au CNRS, donnera une conférence à 15h30 sur la psychologie de l'apprentissage de la lecture. 11h46, une nouvelle pause. Dans un instant, l'actualité à l'étranger et en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Événement littéraire à l'Amirauté, le samedi 23 novembre de 9h à 16h. Le premier SAO, salon des auteurs en off. Débat histoire à 10h, débat média à 14h. Conteuse, atelier d'écriture, exposition de Stéphane Foucault, une vingtaine d'auteurs présents. Le samedi 23 novembre à l'Amirauté. Viens rencontrer un auteur et croquer un bon livre. Venez nombreux au premier SAO.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens majeurs à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2024.
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales générales et provinciales, effectuez vos démarches dès maintenant.
Et si vous avez déménagé, signalez ce changement à l'hôtel de ville de Nouméa ou dans la mairie de votre nouvelle commune.
Attention, votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. C'est pourquoi, que ce soit pour votre inscription ou pour votre maintien sur les listes, il est important de notifier tout changement.
Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
N'attendez plus, ces démarches sont nécessaires si vous souhaitez participer au scrutin organisé en 2025.
Ceci est un message de la ville de Nouméa.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité dans le monde et en métropole, c'est la suite du programme. On retrouve Jean-François Baudin. On va commencer par l'actualité en métropole où le mouvement des agriculteurs prend de l'ampleur. Lancé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, il est rejoint depuis la nuit dernière par la coordination paysanne qui promet le chaos dans le sud-ouest. Des manifestants ont occupé les locaux de la préfecture d'Agen. Ils se sont aussi installés sur le péage de Boulou à la frontière espagnole où ils ont intercepté des camions espagnols. La colère du monde agricole se focalise sur l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur, c'est-à-dire d'Amérique latine. Accord qui a été très largement évoqué au G20 qui vient de se refermer au Brésil. La France, qui a annoncé qu'elle ne signerait pas cet accord en l'état, a tenté de rallier d'autres pays européens à sa cause. C'est donc une vraie bataille diplomatique qui se joue. Arthur Delaborde pour Europe 1.
D'un côté, à la tête d'un groupe de 11 pays, l'Allemagne pousse pour la signature du traité le plus rapidement possible. En face, la France semblait esseulée, mais elle a été rejointe par l'Italie ces dernières heures, d'où une certaine confiance affichée à Rio par Emmanuel Macron.
On veut travailler avec tous ceux qui ont les mêmes préoccupations que nous, qui sont légitimes. Polonais, Autrichiens, les Italiens et plusieurs autres en Europe. La France, simplement, elle exprime une voix qui est portée par beaucoup d'autres qui ont des agricultures avec des spécificités qu'ils veulent protéger.
La Belgique, l'Irlande ou encore les Pays-Bas sont aussi dubitatifs à propos de cet accord. La France et ses alliés semblent donc en mesure de réunir ce qu'on appelle une minorité de blocage qui permettrait d'empêcher la signature du texte. En parallèle, pour donner plus de poids politique à Emmanuel Macron afin de peser dans les négociations, un débat à l'Assemblée suivi d'un vote sur le Mercosur sera organisé mardi prochain. L'objectif est purement symbolique, afficher l'opposition unanime de la classe politique française à ce traité de libre-échange.
Et lors de ce G20, Emmanuel Macron a évoqué aussi le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Kiev a en effet tenté de frapper pour la première fois le territoire russe en profondeur après avoir utilisé des missiles longue portée américains pour la première fois, missiles qui ont été neutralisés. Mais au millième jour de ce conflit, le risque d'escalade est réel et Emmanuel Macron a appelé à la retenue.
Je veux ici véritablement appeler la Russie à la raison. Elle a des responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a fait le choix très grave de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, en étant pourtant membre permanent de son Conseil de sécurité. Donc j'appelle le président Poutine à la raison et à ses responsabilités, celles de la Russie, de son peuple et de ses dirigeants, de respecter la Charte des Nations Unies et de participer à une désescalade collective.
Et après cette attaque ukrainienne, Moscou a promis une réponse appropriée. Le Quai d'Orsay convoque l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France. Cela fait suite aux propos inacceptables tenus à l'encontre de la France et des Européens par Bakou lors de la COP29, Nicolas.
Oui, dans son discours d'ouverture le 13 octobre dernier, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a multiplié les attaques contre la France. Il avait notamment déclaré que le régime Macron commettait des crimes dans les Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie. Dans la foulée, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, chargée du climat, avait annoncé qu'elle ne se rendrait pas à la COP29, reprochant à Bakou d'instrumentaliser la lutte contre le dérèglement climatique pour un agenda personnel indigne. Agnès Pannier-Runacher avait aussi déclaré que les attaques directes contre notre pays, ses institutions et ses territoires sont injustifiables. Dans un communiqué publié ce matin, le ministère des Affaires étrangères affirme que les agissements hostiles de l'Azerbaïdjan doivent cesser. Je rappelle qu'en mai dernier, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale avait pointé du doigt des manœuvres informationnelles d'origine azerbaïdjanaise ciblant la France en lien avec les événements sur le territoire. En clair, la diffusion de fausses informations de manière massive et coordonnée. Au cœur des tensions également entre Paris et Bakou, le sort réservé à 3 ressortissants français qui ont été arrêtés en Azerbaïdjan. Dernièrement, la justice du pays a condamné le français Théo Clerc, arrêté pour un graffiti dans le métro, à 3 ans de prison. Début septembre ainsi, le Quai d'Orsay a déconseillé de se rendre en Azerbaïdjan en raison d'un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable.
En métropole, les discours de fermeté sur l'immigration semblent faire petit à petit leur effet. Selon les chiffres officiels, il y a depuis le début de l'année moins de demandes d'asile, moins de naturalisation et plus d'expulsions. William Molinier pour Europe 1.
Les mots ont un impact puisque les premières demandes d'asile déposées en préfecture sont en baisse, moins 8% fin septembre sur les 9 premiers mois comparés à la même période l'année dernière. Sur un an, la place Beauvau projette une baisse de 11% selon une note du ministère de l'Intérieur qu'Europe 1 s'est procurée. Il y a depuis le début de l'année moins de titres de séjour délivrés et davantage de titres dégradés. 20 593 étrangers en situation irrégulière ont quitté le territoire depuis janvier, mais tout cela reste une goutte d'eau comparé aux 110 000 clandestins qui auront été interpellés cette année par les forces de l'ordre. Même en ayant été multiplié par 7, la moyenne mensuelle des expulsions n'est que de 48. Le nombre de laissez-passer consulaires obtenus dans les délais a pourtant augmenté de 10% et 20 déchéances de nationalité ont été prononcées depuis janvier contre 11 en 2023. Des chiffres qui vont dans le bon sens mais qui ne changent pas la donne. Il faut donc aller plus loin, selon le ministre de l'Intérieur, qui entend remettre l'immigration au cœur du débat législatif dès le début de l'année prochaine.
Toujours en métropole, la suite du congrès des maires qui se déroule à la porte de Versailles. Il a été marqué la nuit dernière pour nous par une manifestation de plusieurs centaines de maires qui avaient troqué pour l'occasion leur écharpe tricolore contre une écharpe noire, un signe symbolique pour protester contre les restrictions budgétaires annoncées par Matignon. Écoutez certains de ces maires.
Je pense que toutes les petites communes sont inquiètes de savoir à quelle sauce elles vont être mangées encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que l'État veut faire passer les communes ou les petites collectivités comme responsables du déficit et de la dette publique.
Nous avons les subventions qui vont être restreintes. Il est difficile d'entretenir notre voirie, nos écoles. On est en colère parce qu'on ne nous demande jamais notre avis.
Et dans ce contexte, le discours que doit prononcer le Premier ministre Michel Barnier jeudi en clôture de ce congrès est donc particulièrement attendu. 11h53, on va conclure ce journal dans un instant avec l'actualité sportive et Rafael Nadal sur les courts de tennis. C'est terminé, il a été éliminé avec son pays, l'Espagne, en quart de finale de la Coupe Davis ce matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Votre repas du soir, un déjeuner en famille, un anniversaire entre amis, Cégel, c'est la solution de l'entrée au dessert. Cégel vous accompagne au quotidien comme pour vos grandes occasions. Des surgelés de qualité professionnelle en format pratique et économique. Cégel pour tous les jours et les grands jours.
Rendez-vous au 4, 186 rue Jacques Ekaoué, 4e kilomètre. Le 4, faites vos courses autrement.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
L'actualité sportive avec donc du tennis et une légende de ce sport qui prend sa retraite, Léo Fichou.
Eh oui, c'est la fin d'une carrière professionnelle au sommet du tennis mondial pour Rafael Nadal. L'ancien numéro 1 mondial a disputé ce matin son dernier match, un match perdu face au Hollandais Bocic van de Zandschulp lors des quarts de finale de la Coupe Davis. Carlos Alcaraz avait égalisé, mais le double espagnol s'est incliné contre la paire hollandaise et c'est donc terminé pour l'Espagne et Rafael Nadal. L'Espagnol, véritable légende de son sport, qui quitte les terrains avec 92 titres à son palmarès, 2 médailles d'or olympiques, 36 Masters 1000, 22 tournois du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros. Il a également remporté 4 Coupes Davis avec l'Espagne.
Allez, on va parler de football avec les deux derniers matchs de la phase de poule de Ligue des Nations ce matin.
L'Allemagne, qui était assurée de terminer en tête du groupe 3, a fait match nul, un but partout contre la Hongrie. Même score pour les Pays-Bas, déjà qualifiés pour les quarts de finale face à la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie, qui jouera la saison prochaine en Ligue B, qui a donc été reléguée. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations aura lieu vendredi soir pour nous. La France pourrait donc affronter soit le Danemark, soit la Croatie, soit les Pays-Bas. Le match se jouera en mars.
Il est temps